Imaginons une toute petite start-up, sans aucun budget initial, sans investisseur.
Vraiment rien du tout pour démarrer.
Rien du tout, ouais. Fondée au fin fond d'une province sous haute tension, et le tout sous la botte d'un empire militaire massif, super lourdement armé.
Un empire qui, au passage, n'hésite pas une seconde à utiliser la peine de mort pour régler le moindre problème d'ordre public.
Exactement. Donc, c'est pas vraiment l'environnement idéal. Et leur stratégie de développement, c'était quoi? Eh ben, le bouche à oreille et une série d'événements complètement imprévisibles.
C'est ça qui est dingue.
Ouais. Parce que pourtant, en l'espace de quelques décennies, cette petite entité devient virale. Virale à l'échelle mondiale, au point de carrément renverser l'ordre établi.
En fait, c'est même plus de la disruption de marché à ce niveau-là. Cette petite entité, elle a littéralement réécrit le système d'exploitation morale, sociale et philosophique de toute la civilisation occidentale.
Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette nouvelle plongée dans nos sources. On se penche sur une conférence académique qui est juste fascinante. Le cours numéro 6 du docteur Craig Keener. Un cours qui porte sur le livre des Actes des Apôtres.
Mais qu'on se rassure tout de suite, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un cours de théologie dogmatique.
Ah non, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de comprendre le comment et le pourquoi du fonctionnement de ce groupe.
Voilà, on veut analyser leur stratégie, leur réseau, la logistique de terrain, et tous ces éléments vraiment surprenants qui ont permis à ce groupe de l'Antiquité de créer un mouvement d'une telle ampleur.
Est-ce que, quand on y pense, c'est vertigineux de réaliser que des dynamiques dignes des levées de fonds modernes ou des réseaux sociaux, bah, ça existait déjà avec une sophistication incroyable bien avant notre ère numérique?
Ah ouais, totalement. Mais pour bien saisir l'ampleur de ce qu'ils ont accompli, il faut poser un cadre conceptuel clair dès le départ.
Je t'écoute.
En fait, le succès de ce mouvement, il repose sur une tension permanente. C'est un équilibre hyper délicat entre, d'un côté, une intégration culturelle extrêmement calculée, et de l'autre, l'irruption d'événements totalement inattendus. Des trucs parfois inexplicables qui venaient complètement briser le statu quo.
Bon, alors, avant même de parler des immenses foules, des miracles ou des grands discours publics, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le niveau de la rue.
Le quotidien, quoi.
Ouais, le quotidien. Comment ce message s'est-il protagé concrètement? Parce que, pour reprendre notre métaphore de la start-up, ils n'avaient pas de budget marketing. Ils n'avaient pas de mégaphone pour crier sur les places publiques.
Bah, la réponse, elle réside dans la puissance absolue du réseau organique. Le docteur Keener, il souligne vraiment dans ses cours l'importance vitale des réseaux relationnels et de ce qu'on appelait à l'époque gréco-romaine les foyers.
Les fameux zoikos, c'est ça?
C'est ça. Mais attention, la définition d'un foyer dans l'Empire romain, ça n'a rien à voir avec notre famille nucléaire moderne. Ça incluait la famille élargie, les serviteurs, les esclaves, les partenaires commerciaux. Et surtout, ça s'inscrivait dans un système fondamental de l'époque, le système du patron-client.
Attends, il y a un truc qui m'échappe avec ce système de patron-client. Si je comprends bien l'histoire romaine, la société, elle était atrocement hiérarchisée, non?
Ah, complètement figée.
Du coup, est-ce qu'on doit vraiment imaginer qu'un riche aristocrate romain en toge, il invitait le vendeur de rue du coin ou l'artisan modeste dans son salon pour discuter de philosophie? Ça violait pas toutes les normes sociales de l'époque, hein? Comment ils ont évité un scandale monumental en mélangeant les classes comme ça?
Bah, c'est une super question, parce que c'est justement là que réside le génie de cette structure sociale. En fait, le système patron-client, c'était pas du tout un idéal égalitaire. C'était une nécessité économique et politique.
Ok, comment ça marchait?
Une personne d'un statut supérieur, le patron, fournissait une protection juridique ou des opportunités d'affaires ou même juste de la nourriture à des personnes de statut inférieur, donc les clients.
D'accord. Un échange de bons procédés.
Exactement. En échange, le patron y recevait quelque chose d'essentiel dans l'Antiquité, de l'honneur public et un solide réseau de loyauté politique. Donc oui, un aristocrate ouvrait grand ses portes à des artisans. Parce que plus son hall d'entrée était rempli de clients chaque matin, plus son prestige social augmentait aux yeux de tous.
Ah, je vois. Donc, le mouvement a simplement parasité cette courroie de transmission qui existait déjà pour faire circuler son message à travers toutes les couches sociales.
C'est exactement ça. Ils se sont greffés sur les autoroutes sociales de l'Empire.
Décortiquons un peu tout ça avec un exemple. Si on prend l'apôtre Paul, on s'imagine souvent le grand orateur solitaire qui prêche dans le désert.
La figure classique.
Voilà. Mais les sources mettent en lumière un détail d'acte 18 qui change toute la perspective. Paul, il fabriquait des tentes. Il travaillait le cuir.
Ouais, un travailleur manuel.
C'est fou. Pour filer notre métaphore, c'est un peu comme s'il avait installé son atelier dans l'équivalent antique d'un espace de coworking. Au lieu d'arriver dans une ville et de prêcher de l'extérieur, comme un étranger qui vient faire la morale, il s'asseyait, il se salissait les mains avec du cuir, et les discussions se liaient hyper naturellement.
Et dans cet espace de coworking antique, faut bien s'imaginer qu'il n'y avait pas d'écouteurs à réduction de bruit pour s'isoler dans sa bulle. Le bruit de fond, c'était la sueur, les négociations commerciales, les débats philosophiques.
Immersion totale.
Pocalmon. Paul, c'était un citoyen romain très éduqué, un véritable érudit. Mais il a choisi cette intégration manuelle, par le bas. Du coup, il n'était pas du tout perçu comme une menace extérieure. Et d'ailleurs, Kinner fait un pont hyper pertinent avec notre époque.
Lequel ?
Il dit que l'idée, c'est pas de recréer artificiellement des foyers gréco-romains aujourd'hui. L'idée, c'est de trouver nos équivalents modernes là où les humains baissent la garde. Il donne l'exemple de groupes de soutien, comme ceux destinés aux parents qui ont perdu un enfant.
D'accord, des espaces de grande vulnérabilité.
C'est ça. Dans ces espaces, il n'y a plus aucune hiérarchie sociale. Des êtres humains, disons brisés, se retrouvent. Et le partage d'une espérance devient possible parce qu'il se fait d'humain vulnérable à humain vulnérable.
C'est un changement de perspective majeur, ça. L'organique nécessite de la vulnérabilité, pas un diplôme en communication. Mais parce qu'il y a un mais. Voilà la limite du système. Le réseautage organique, l'approche de l'artisan qui discute dans son atelier, ben c'est lent.
Très lent, oui.
C'est intime et profond, c'est sûr. Mais dans un monde bruyant et hostile, ça prend des décennies. Pour qu'une start-up explose vraiment, il faut parfois un événement de lancement complètement fracassant. Un truc qui oblige littéralement la foule à s'arrêter de marcher dans la rue.
Absolument. Et c'est ce que les théologiens appellent souvent l'évangélisation de puissance. Dans le livre des Actes, la méthode privilégiée pour briser la normalité du quotidien et capter l'attention de la masse, ce sont les signes et les miracles.
Genre quoi ?
Que ce soit des phénomènes inexpliqués, comme les langues le jour de la Pentecôte, ou bien la guérison instantanée d'un mendiant qui était incapable de marcher depuis sa naissance, c'est vraiment des courts-circuits dans la réalité.
Et d'ailleurs, nos sources contiennent une anecdote très personnelle du docteur Kinner à ce sujet, et franchement, elle est hyper viscérale. Il raconte qu'à une époque où il travaillait comme ouvrier, pendant une pandémie, il a croisé l'une de ses voisines, Mabel Cooper.
Ouais, une histoire marquante.
Elle souffrait d'un problème de genou super grave que la médecine n'arrivait pas à soigner. Et là, il a prié pour elle, sans aucun cérémonial, directement dans la rue. Et son genou a été guéri.
Mais c'est la suite de l'histoire qui est complètement troublante.
Grave. Quelques jours plus tard, cette même voisine revient le voir, mais en panique totale. Elle crachait du sang et son médecin soupçonnait un cancer du poumon en phase terminale.
Et là, le contexte visuel que Kinner utilise pour raconter ce moment précis, il est fondamental pour bien comprendre la rudesse de leur réalité à l'époque.
Mais tellement. En fait, Kinner venait de passer des heures à lessiver les murs de l'appartement d'un autre voisin qui venait de décéder, un fumeur invétéré. Il tenait le seau d'eau de rinçage dans ses mains. Il décrit cette eau comme étant épaisse, sombre, vraiment de la couleur de la gomme lac.
Faut imaginer la scène.
C'est hyper cru. Et face à la terreur de sa voisine, il fait pas du tout dans le sentimentalisme. Il pointe ce seau poisseux et il lui dit un truc du genre
« C'est probablement à ça que ressemblent vos poumons à l'intérieur. »
C'est violent comme image. Ouais. Il prie pour elle à nouveau, mais il pose une condition très crue. Miracle ou non, tout le monde finit par mourir un jour. Et la vraie question, c'est de savoir comment on s'y prépare. Heureusement, l'histoire se termine bien. Les examens ont révélé qu'il n'y avait pas de cancer et Mabel a vécu encore très longtemps en rejoignant ce mouvement.
Mais cette crudité, tu vois, ce refus de vendre de l'illusion ou de faire rêver avec une santé éternelle, c'est crucial pour comprendre l'état d'esprit des premiers propagateurs de ce mouvement.
Sauf que là, je suis obligé de soulever une objection intellectuelle majeure. Miser la crédibilité de tout un mouvement sur des miracles pour attirer l'attention. Enfin, c'est pas un pari totalement suicidaire sur le plan stratégique.
Comment ça ?
Je veux dire, c'est comme faire une démonstration publique de produits devant des milliers d'investisseurs. Si on annonce un miracle compris et que rien ne se produit, c'est le fiasco total. On passe instantanément pour des charlatans, non ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont Kinner recadre intellectuellement cette question. La faille dans cette logique d'échec, c'est de penser que le miracle était considéré comme une fin en soi.
C'est-à-dire ?
Kinner rappelle un fait qui est brutal mais irréfutable. Tous les grands croyants, tous les faiseurs de miracles du 19e siècle, comme le célèbre Hudson Taylor, ils sont tous morts aujourd'hui. L'objectif d'une guérison, même dans la pensée antique du livre des Actes, ça n'a jamais été de garantir l'immortalité physique. C'était toujours perçu comme un truc intrinsèquement temporaire.
Attends, si le but c'est pas de régler le problème de la maladie de façon permanente, à quoi il sert le miracle alors ? Pourquoi prendre ce risque ?
La meilleure analogie, ce serait celle de la bande-annonce d'un film. Un miracle, dans leur théologie, c'est juste un échantillon. C'est l'intrusion hyper brève, l'avant-goût d'une promesse future, de restauration globale du monde.
Ah, j'aime bien l'idée de l'échantillon.
Ouais. Quand un signe inexpliqué se produit, ça promet pas qu'on souffrira plus jamais. Ça signale simplement, de manière spectaculaire, que l'univers n'est pas juste un chaos abandonné au hasard. Et ce concept de rupture de la normalité, ça s'applique aussi à ce que Skinner appelle les configurations divines.
Les fameux rendez-vous improbables.
Précisément. L'exemple de Philippe dans les textes est frappant. Le gars est envoyé sur une route désertique, apparemment sans aucune raison logique, et là, paf, il tombe nez à nez avec un haut fonctionnaire du gouvernement éthiopien.
Au milieu de nulle part.
Voilà. Et par un hasard qui défie toutes les probabilités statistiques, cet homme politique est en train de lire à voix haute l'exact passage biblique dont Philippe a besoin pour entamer la discussion avec lui. C'est l'équivalent d'un algorithme de recommandation parfait, mais dans le monde réel.
Le coup monté de l'univers, en quelque sorte. Donc, si on récapitule un peu, on a des réseaux organiques très lents, qui sont soutenus par des événements spectaculaires, genre miracles ou hasards inouïs, et ça, ça agit comme de redoutables outils d'acquisition d'audience.
Exactement.
Mais soyons pragmatiques deux secondes. Une bande-annonce, ça fait entrer les gens dans la salle de ciné. Mais si le film est mauvais, les gens sortent au bout de 10 minutes. La nouveauté, un miracle, ça s'estompe hyper vite. Qu'est-ce qui fidélisait ces foules une fois le spectacle terminé? C'était quoi leur secret de retention?
Et c'est ici qu'intervient le mode de vie. C'est ça qui agissait comme un véritable magnétisme social. Une fois l'attention captée, c'est la communauté qui retenait les individus. Skinner, il analyse ça profondément dans le chapitre 2 des Actes.
C'était pas juste une réunion dominicale, j'imagine.
Ah non, pas du tout. C'était pas un simple club philosophique. C'était une redéfinition radicale de la société humaine. Ils partageaient leurs repas quotidiennement, ils priaient ensemble et, de manière absolument choquante pour l'époque, ils mutualisaient leurs possessions matérielles pour éradiquer la pauvreté dans leur propre rang.
On parle d'un changement de paradigme complet sur la notion d'amour, en fait. Mais le concept d'aimer son prochain, c'était pas complètement nouveau, non ? Les textes juifs anciens en parlaient déjà.
C'est vrai, l'injonction intellectuelle d'aimer son prochain, on la trouve déjà dans le livre du Lévitique. La vraie révolution apportée par le fondateur de ce mouvement, elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13.
Qu'est-ce qui change exactement ?
La nouveauté, c'était pas de dire « aimez-vous les uns les autres ». C'était le nouveau standard d'exécution qui était attaché. « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Ça impliquait un amour sacrificiel, un amour qui allait jusqu'à la mort. Un niveau d'engagement mutuel qui détruisait complètement les barrières de classe dont on parlait tout à l'heure.
Il y a d'ailleurs une observation structurelle dans l'analyse des sources qui est super intéressante là-dessus. À la fin du fameux chapitre 2 des Actes, le texte biblique place l'impact de ce mode de vie intime, le simple fait de partager le pain dans une maison, exactement sur le même plan que la grande prédication enflammée de l'apôtre Pierre au milieu de Jérusalem.
C'est fou quand on y pense.
Ouais, le repas solidaire est décrit comme ayant la même puissance de persuasion que le grand discours public. Ça générait une croissance quotidienne.
Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est très logique. Dans le contexte de la société romaine qui était hyper stratifiée, cette unité devenait en soi un miracle social visible de tous. Voir un esclave et un maître, un citoyen riche et un indigent, s'asseoir à la même table et se traiter mutuellement de frères, mais c'était un spectacle totalement alien pour l'Empire.
Tellement alien que ça a fini par se retourner contre eux. Hein. C'est vraiment l'ironie tragique de cette histoire. Ce mode de vie d'une pureté radicale a déclenché les pires théories du complot à l'extérieur.
En effet, l'absence de précédent social a terrifié la population. Comme ils se réunissaient en privé, à l'abri des regards, et qu'ils s'appelaient frères et sœurs avec une affection débordante, des rumeurs d'inceste se sont propagées partout.
Ah oui, c'est inévitable avec des mentalités pareilles.
Et pire encore, parce que leur rituel central consistait à manger symboliquement le corps et le sang de leur fondateur, la société romaine les a accusés très sérieusement de cannibalisme rituel.
De cannibalisme rituel? Mais comment on survit à une campagne de diffamation pareille sans agence de relations publiques? Je veux dire, t'es accusé de manger des humains et d'inceste, tu peux pas juste imprimer un tract pour dire « non mais c'est faux ».
Les sources mentionnent le développement d'une apologétique légale. Concrètement, comment ils ont géré ça?
Cette apologétique légale, c'était pas une simple négation de façade. Les intellectuels de ce mouvement, ils ont commencé à rédiger des traités philosophiques d'une complexité inouïe qu'ils adressaient directement aux empereurs romains ou au Sénat.
Ils tapaient haut, quoi. Très haut. Au lieu de simplement se défendre en disant « on n'a rien fait », ils attaquaient intellectuellement. Ils démontraient, en utilisant la rhétorique gréco-romaine la plus sophistiquée, que non seulement ils n'étaient pas des criminels, mais que leur éthique était en réalité supérieure à la loi morale romaine. Ils battaient l'élite intellectuelle de l'Empire sur son propre terrain pour démonter ces fake news.
D'accord. Donc, on a l'acquisition organique, on a le marketing de puissance via les miracles, on a une fidélisation par une communauté super radicale et une défense juridique de haut vol. Mais pour quitter la petite province de Jérusalem et conquérir Rome, il faut une logistique écrasante. À l'époque, les voyages étaient horriblement chers et dangereux, avec les tempêtes, les bandits. Comment un mouvement qui part de la base a pu financer et exécuter une telle expansion ?
Par une intelligence stratégique redoutable. Et surtout, un ciblage chirurgical. Ils marchaient pas au hasard dans la pampa, ils ciblaient directement les immenses centres urbains et multiculturels comme Éphèse ou Rome, les vrais carrefours commerciaux de l'Empire.
Le but, c'était de toucher les influenceurs locaux.
Exactement. La stratégie consistait à implanter le message dans ces hubs logistiques. Ils savaient pertinemment que les marchands, les voyageurs et les soldats se chargeraient ensuite de diffuser l'information dans toutes les provinces périphériques, sans que les fondateurs n'aient même besoin de s'y rendre.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au-delà de la géographie, ils utilisaient des leviers de pouvoir assez étonnants. Les sources donnent l'exemple de l'apôtre Paul qui choisit délibérément de se rendre dans la ville d'Antioche de Pisidie.
C'est un détail fascinant, ça.
Ouais, parce que c'est pas du tout un choix aléatoire. L'archéologie nous révèle que Paul venait de convertir Sergius Paulus, qui était le gouverneur romain de Chypre. Et devinez quoi ? La puissante famille de ce gouverneur possédait d'immenses domaines, précisément à Antioche de Pisidie.
Donc il n'y allait pas à l'aveugle.
Pas du tout. Paul n'est pas arrivé en touriste avec son sac à dos. Il s'est appuyé sur les recommandations du réseau de la haute société pour ouvrir des portes qui lui auraient été totalement inaccessibles autrement.
Ça, c'est l'essence même du pragmatisme. Et sur le plan des infrastructures, le contraste est encore plus hallucinant. Pense à l'époque. D'un côté, tu as les religions d'État, avec des bâtiments comme le temple d'Artémis à Éphèse, l'une des sept merveilles du monde. C'était un truc colossal, recouvert d'or, qui fonctionnait littéralement comme la banque centrale de l'Asie mineure.
L'équivalent de fusionner Wall Street et le Vatican, quoi.
Parfaitement résumé.
Et face à ce complexe militaro-religieux qui pèse des milliards, c'était quoi l'infrastructure de notre petite start-up immatérielle ?
Des salons, des réunions dans des maisons privées. L'absurdité du contraste est totale, mais stratégiquement, c'était brillant. Se réunir dans le grand salon d'un membre riche, ça permettait d'en avoir absolument aucun coût d'infrastructure à entretenir.
Pas de loyer, pas de taxes ?
Rien. Surtout, c'était discret en temps de persécution impériale. Et ça favorisait un encadrement intensif, un mentorat serré, qui est juste impossible à réaliser dans les foules immenses d'un temple païen. Et cette efficacité logistique, on la retrouve aussi dans leurs ressources humaines. Ils fonctionnaient pas en silo, ils opéraient en équipe très mobile, Paul, Silas, Timothée, Luc.
Il y a aussi ce profil Apollos, qui est mentionné dans nos sources. Son recrutement, c'est un modèle d'efficacité RH.
Oui, Apollos était déjà un brillant érudit d'Alexandrie. Il était parfaitement formé à la rhétorique classique et aux textes anciens. Au lieu de passer 10 ans à former un novice en communication, ils ont repéré cet orateur de talent, ils ont juste ajusté sa compréhension sur quelques points clés théologiques et ils l'ont immédiatement envoyé débattre sur les grandes places publiques.
Ils savaient déléguer massivement.
Exactement, utiliser les talents préexistants pour gagner un temps précieux.
D'ailleurs, en parlant de recrutement pour la direction, il y a un détail qui me fascine. L'équipe fondatrice des 12 leaders initiaux perd un membre suite à la trahison de Judas. Il faut le remplacer au conseil d'administration. Ils ont 2 super candidats qualifiés, Matthias et Joseph Barsabbas. Et comment ils tranchent cette décision spirituelle cruciale pour l'avenir du mouvement ? Ils tirent au sort. Ils jouent littéralement à la courte paille. C'est quand même déroutant, non ?
Ça nous paraît super aléatoire aujourd'hui, voire un peu magique, mais c'est mal comprendre la rigueur de leur processus intellectuel. Avant d'en arriver au tirage au sort, qui au passage était une méthode administrative hyper courante dans la gestion publique gréco-romaine pour éviter les conflits d'égo, il y a un travail de qualification intellectuelle intense.
Donc c'était pas juste un coup de dé à l'aveugle ?
Pas du tout. L'apôtre Pierre ne s'en remet pas au hasard. Il justifie la nécessité de ce remplacement par une technique d'argumentation juridique rabbinique très sophistiquée qu'on appelle le kol vomer.
Le kol vomer, comment ça fonctionnait cette logique ?
C'est un argument qui procède du mineur vers le majeur, ou à plus forte raison. Pierre, il analyse d'anciens textes de loi et il argumente comme ça. si les écritures anciennes décrètent que le domaine d'un homme corrompu doit être laissé à l'abandon, ça c'est la prémisse mineure, alors à plus forte raison, une fonction de leadership mondial, laissée vacante par une trahison, doit impérativement être confiée à un homme fidèle et qualifié. Ça c'est la prémisse majeure.
D'accord, c'est une déduction légale implacable. On s'imagine souvent une petite pièce mansardée, super modeste, sous les toits.
Mais c'est une erreur de perception architecturale majeure. Les sources précisent bien qu'ils étaient 120 personnes réunies dans cette fameuse pièce.
120 personnes dans une chambre?
Bah oui. Au 1er siècle, à Jérusalem, l'immobilier est capable de soutenir le poids et le volume de 120 personnes à l'étage. Ça se trouvait pas chez le menuisier du coin. Ça ne se trouvait que dans les immenses villas des quartiers aristocratiques. Ils utilisaient donc, de manière très stratégique, les ressources financières et immobilières de leurs membres les plus riches pour abriter leur premier grand incubateur.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que doit-on retenir de la somme de toutes ces sources historiques? On assiste en fait à une fascinante danse.
Une danse entre deux extrêmes, oui.
C'est ça. D'un côté, il y a une soumission totale à une direction spirituelle complètement imprévisible. Les textes n'hésitent pas à avouer que, parfois, l'inspiration leur disait fermement non. Ça leur bloquait l'accès à certaines régions, comme l'Asie, ce qui devait être atrocement frustrant pour des gens qui voulaient s'étendre. Et de l'autre côté de la balance, on observe un pragmatisme logistique implacable. Se faire financer par des femmes riches, exploiter les compétences d'un érudit comme Apollos, argumenter avec les outils juridiques du Colvomère, infiltrer l'Empire par les réseaux de la haute bourgeoisie.
C'est la définition ultime d'un mouvement résilient et intelligent. Ils avaient compris qu'il fallait accepter de ne pas pouvoir tout contrôler sur le plan spirituel, tout en préparant de manière maniaque le terrain matériel. Comme ça, le jour où l'étincelle de l'événement inattendu jaillissait, le feu pouvait immédiatement se propager à travers des réseaux sociaux ultra solides, une communauté soudée et une logistique incassable.
Et c'est ce qui m'amène à une dernière pensée, un parallèle qu'on devrait garder en tête après notre exploration d'aujourd'hui. Ce mouvement antique s'est propagé mondialement en exploitant l'infrastructure de pointe de son époque. Les routes pavées romaines, la paix militaire de l'Empire et les grands carrefours maritimes multiculturels. Aujourd'hui, notre équivalent immédiat de ces routes romaines, c'est le réseau Internet, ses algorithmes viraux et l'instantanéité de l'information. Mais si Internet a remplacé la voie romaine, quel serait pour nous aujourd'hui l'équivalent moderne de cette fameuse chambre haute ?
Ah, ça c'est une réflexion fondamentale.
Antonio réfléchi, face au bruit perpétuel, au déluge de notifications, à l'hystérie permanente et publique de notre ère numérique, il y a de quoi se demander si la société contemporaine ne manque pas cruellement d'espaces clos, des espaces silencieux et intimes, des lieux complètement déconnectés du regard de la foule et de la validation immédiate des statistiques. Un endroit où de petits groupes pourraient d'abord s'enfermer pour cultiver une vision, une communauté authentique, avant même d'espérer influencer le monde extérieur. Peut-être qu'il faut accepter de retourner dans cet humble espace de coworking, accepter de travailler le cuir loin des projecteurs avant d'avoir l'ambition de conquérir un empire. Une réflexion qu'on laisse à la méditation de chacun pour aujourd'hui.